Top, c'est parti.
Comment ça marche le journalisme?
Sur Twitter, Instagram.
On est dans un moment de grande confusion.
C'est votre dernier mot.
Il est 9h41, vous êtes sur France Inter et je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel Instant M.
On s'intéresse à la façon dont les médias sont faits.
95 000 téléspectateurs.
Nos abonnements augmentent grâce au numérique.
On fout des sondages.
Mon invitée a grandi sous Giscard, mais elle est née sous Pompidou. Elle s'appelle Cécile Prieur, journaliste au Monde depuis 25 ans, directrice adjointe de la rédaction du quotidien. Cécile Prieur vient d'être nommée à la tête de l'Obs, hebdo robuste qui, avant le Covid, qui a un peu changé les choses, se portait plutôt pas mal, tout en souffrant de faire sans doute moins de bruit que d'autres, d'être moins bien identifié politiquement que d'autres. Dans un climat médiatique et politique franchement électrique, comment reprendre une part de voix quand on se revendique d'une gauche plutôt centriste et d'un journalisme plutôt raisonné? En clair, comment faire du bruit quand on est bien élevé?
Instant M. Sonia De Villers sur France Inter.
Ce qui, vous en conviendrez, est une sacrée question. Bonjour, Cécile Prieur.
Bonjour.
Alors, l'Obs et ses défis pour l'avenir à l'heure où la gauche se déchire. On va en parler ensemble dans quelques minutes. Peut-être un mot sur cette couve de l'Obs que vous avez exhumée avec vos équipes. Cette nuit, on était en 81 au démarrage de la campagne.
Oui, donc quand on a su que Valéry Giscard d'Estaing
venait de mourir,
Pascal Richer a trouvé dans nos archives une couverture qui avait fait grand bruit à l'époque. En février 81, l'Obs avait titré « L'homme qui voulait être roi mm-hmm. » en mettant en scène VGE avec une couronne sur la tête, les attributs du monarque,
Le manteau d'Hermine. Ça avait fait du bruit.
Ça avait fait du bruit, surtout ça l'avait ulcéré. Il avait fait étudier le contenu du numéro par l'Élysée, il en avait parlé lors d'une interview avec Morosi. Donc voilà, c'était un moment où on était en pleine campagne, il était évidemment plombé par les affaires qu'on connaît.
Alors je vous propose évidemment, avant de plonger dans l'histoire de l'Obs et dans son avenir, de revenir à 1974. Je vais être très précise, on va revenir au 29 mai 1974, on est 5 jours après l'investiture de Valéry Giscard d'Estaing. À l'issue du Conseil des ministres, le nouveau chef de l'État déclare, en ce qui me concerne, il n'y aura plus de saisie de presse, même s'il y a des attaques contre le président de la République. À quoi Giscard fait-il référence? Au délit d'offense, un héritage du crime de lèse-majesté pour les uns, un rempart pour protéger la République selon les autres. Toujours est-il que De Gaulle a abondamment utilisé le délit d'offense pour traîner les journaux devant les tribunaux. Parmi les réformes et les grandes ruptures affirmées illico par Giscard, il y a donc ce fameux délit d'offense. Libération vient tout juste de naître, le quotidien fondé par Jean-Paul Sartre a été lancé un an auparavant. Serge July en devient le patron, il est avec nous ce matin au téléphone. Bonjour Serge July.
Bonjour.
Alors, Giscard annonce qu'il ne se servira pas du délit d'offense et que Libération fait-il dès le lendemain matin?
Alors, d'abord sur le geste de Giscard, qui me semble très symbolique et très important, c'est la rupture avec la période gaulliste. Donc, je pense que Giscard est un de ceux qui, à droite, ont le mieux compris ce qui s'est passé en 68.
Oui.
Et il reprend un programme, d'ailleurs, qu'il n'invente pas, il prend le programme de Chaban-Delmas, l'homme qui a été battu par Chirac, puisque vous rappelez, pour l'élection présidentielle de 74, il y a les 43 qui se rallient à Giscard contre Chaban-Delmas, qui élimine Chaban-Delmas. Mais celui qui a inventé le programme de... la nouvelle société, qui va être la préoccupation principale de Giscard au président, c'est Chaban-Delmas. Et d'ailleurs, un autre président reprendra lui aussi ce programme, c'est François Mitterrand.
Et le délit d'offense là-dedans, Serge July, c'est vraiment un marqueur très important.
L'aspect symbolique de la rupture, quoi. Hein. Donc, Libé, comment réagit Libé? On a parmi nos gènes, il y a évidemment la petite fibre Harakiri, Charlie Hebdo, et on, pour montrer ce qu'est une liberté, il faut l'éprouver, il faut le faire. Donc évidemment, on va faire une page, ça a été très difficile à faire, je peux vous dire, de faire des pages, des lignes, je me rappelle plus combien il y en avait, mais d'insultes puisqu'on avait le droit désormais d'insulter le président de la République.
Et ben voilà, moi je les ai sous les yeux, Serge Julie. Depuis hier, insulter Giscard, c'est légal, titre Libé. S'ensuit donc cette page entière d'insultes qui sont vraiment enquillées les unes derrière les autres, parmi lesquelles pourri de bourgeois, mange caca, enflé de chamalière, tas de merde en bas de soie.
Il a fallu beaucoup d'imagination collective, parce que c'était difficile à trouver autant d'insultes. Alors, je vais vous dire, la morale quand même de cette histoire, c'est que Libération a été, sous Giscard, sans doute le journal le plus poursuivi de France, et j'avais le casier judiciaire le plus énorme, puisque toutes les petites annonces qui paraissaient dans Libération, en particulier les petites annonces relationnelles ou de prisonniers, etc. Donc j'étais poursuivi pour soit pour proxénétisme, soit pour obscénité, etc. J'avais un casier judiciaire à la fin des années Giscard, comme quoi il y avait...
Mais pas le délit d'offense, Serge Julie, pas le défi d'offense. Et là, la vraie rupture.
J'avais tous les autres, mais pas le délit d'offense, qui résume assez bien la situation. C'est-à-dire, il y a à la fois le Giscard libère une partie de la société française et en même temps il y a un carcan qui reste, son ministre de la Justice qui était Alain Perfit m'a poursuivi de manière inlassable, alors pas au point de ruiner le journal, donc les condamnations étaient calculées de manière millimétrique, c'est-à-dire ça n'empêchait pas le journal de paraître. Mais évidemment, ça crée un inconvénient.
Voilà.
Ça fait quand même deux fois par mois chez un juge d'instruction, ensuite au tribunal.
Voilà, Giscard qui va promettre...
J'ai passé beaucoup de temps. Voilà, donc c'est pour dire qu'il y avait un équilibre.
Giscard qui va promettre d'abroger le fameux article 26 de la loi de 81 sur le délit d'offense et puis finalement qui ne le fera pas. Il ne s'en est pas servi, mais il ne l'a pas abrogé. Et puis c'est l'occasion pour moi de vous annoncer que l'Instant M travaille sur cette question du délit d'offense et puis vous propose la semaine de Noël une série historique sur l'histoire des outrages faits au chef de l'État. Merci beaucoup Serge Julie pour ce souvenir et pour ce témoignage. Bonne journée.
L'Instant M. L'actualité des médias sur France Inter.
Mon invité est donc Cécile Prieur, c'est la nouvelle patronne de l'Obs. Après avoir été longtemps journaliste au Monde et directrice adjointe de la rédaction du Monde. Évidemment, je me rue sur votre couverture, Cécile Prieur, qui est en kiosque. La tentation Hidalgo, avec une photo pleine page de la maire de Paris. C'est une tradition des news magazines à la française, désigner son champion pour la présidentielle. Anne Hidalgo est-elle votre candidate? Quand je dis votre, c'est pour l'Obs.
Alors, évidemment, non. Tout simplement parce que, d'une part, elle n'est pas encore candidate. Et deuxièmement, ce n'est pas la vocation de l'Obs d'être une écurie politique. On a une ligne éditoriale, on n'a pas de ligne politique. Et donc, notre travail, jusqu'à la présidentielle et bien au-delà, ça va être d'animer le débat politique.
Ouais.
Notamment, animer le débat politique à gauche, mais pas prendre parti pour l'un ou l'autre des candidats. C'est bien trop tôt et ce n'est pas notre vocation.
Animer le débat politique à gauche, bon courage, parce qu'il est particulièrement envenimé et que d'aucuns se désespèrent de voir un jour la gauche pouvoir se réunir et du coup se renforcer. Il y a un édito de Dominique Nora dans ce numéro, donc vous êtes son successeur, Dominique Nora était la patronne de l'Obs ces dernières années, qui dit finalement la querelle à Paris entre Anne Hidalgo et les Verts, c'est un précipité chimiquement pur de ce qui empoisonne la gauche depuis des années.
Oui, alors c'était dans le numéro précédent.
Dans le numéro précédent, pardonnez-moi.
L'éditorial de Dominique.
Oui.
Oui, bien sûr, les querelles à gauche, c'est presque un pléonasme, en fait.
C'est ça.
Mais ça ne veut absolument pas dire que le champ politique de la gauche n'est pas actif, n'est pas vivant, n'est pas en pleine ébullition. Au contraire, en fait, on voit qu'il y a eu aussi une forme de clarification avec le macronisme. Donc, ça laisse un champ à gauche large. Et donc, il est en construction, en ébullition. Et c'est ça qui est passionnant à raconter.
Ce qui est intéressant dans votre édito à vous, Cécile Prieur, c'est que vous reprenez un édito de Jean-Daniel en 64, qui dit « Si la gauche se cherche, notre simple ambition est de l'aider à se trouver ».
Oui, donc c'est une magnifique ambition. En tout cas, notre ambition à nous, c'est d'éclairer tous ces débats et d'apporter aux lecteurs toute cette complexité-là.
Voilà. Alors, vos lecteurs, ils ont été très nombreux à se montrer très Macron-compatibles il y a quelques années. Et puis aujourd'hui, une partie d'entre eux est extrêmement déçue. Comment vous allez les réconcilier, ceux qui seront toujours derrière Macron, faute de mieux ou par conviction, et ceux qui se disent plus jamais ?
Alors vraiment, notre réponse, c'est le journalisme, purement et simplement, si je puis dire. C'est l'enquête, c'est la création de lieux de débat entre justement ces tendances de gauche, mais bien au-delà en fait. L'Obs n'a pas vocation qu'à parler que de la gauche, même s'il a des valeurs identitaires à gauche, il doit raconter tous les spectres politiques et tous les débats. Et donc on voit aujourd'hui qu'il y a une radicalisation du débat, une montée des populismes.
Une polarisation mortifère, écrivez-vous, Cécile
oui,
Prieur.
Oui, tout
mortifère.
À fait. Mortifère.
C'est pas rien comme, comme qualificatif.
Et non, pourquoi mortifère ? Parce qu'en fait, on voit que le débat se fige dans des figures imposées, aussi dans une radicalisation. On voit qu'il y a un champ politique qui se porte vers la droite de plus en plus. Donc nous, on estime que ça nous laisse un champ ouvert à gauche, au contraire, pour porter ces valeurs, pour explorer un vrai bouillonnement de la société, notamment ce qu'on pourrait appeler autour de la social-écologie. Il se passe quelque chose dans le pays qu'on a peut-être un peu du mal à voir à Paris, quoique, bien sûr, le mouvement écolo est très fort, etc. Mais dans le pays, il y a beaucoup de petites micro-initiatives,
vous
etc.
Vous revendiquez justement un positionnement pour votre hebdomadaire qui, dites-vous, doit s'affirmer comme un média progressiste, social, écologiste et féministe, défenseur des libertés et de l'état de droit. Un journal qui dénoncerait toutes les inégalités et les formes d'oppression. Lu comme ça, quelle différence avec Libération ? Quelle différence avec Mediapart ? Quelle différence avec un champ qui est déjà bien occupé journalistiquement ?
Alors, je pense qu'il y a une différence de ton. Véritable, une différence aussi de rythme, même si l'Obs est un titre qui se déploie tous les jours sur le web et on y tient véritablement, c'est-à-dire là, notre préoccupation première, ça va être de dire qu'est-ce qu'on a à dire tous les jours sur le numérique. C'est évidemment un news magazine et donc il dit une fois par semaine des choses qu'on espère les plus fortes possibles. Il y a un esprit Obs, il y avait une communauté et il y a toujours une communauté Obs, et cette communauté, on cherche à la déployer. Donc oui, bien sûr, ce sont des valeurs universelles de gauche qui sont partagées par d'autres médias, et c'est bien tant mieux. Mais après, les médias n'ont pas tous les mêmes couleurs. Et donc, en fait,
donc, c'est pas tout à fait la même gauche.
Je ne sais pas si c'est tout à fait ou pas la même gauche. En fait, je ne cherche pas à m'enfermer ou à nous enfermer dans des catégories. Moi, je cherche à embrasser et surtout à faire du journalisme. Enfin, je pense que plus on se met dans des boîtes...
Et à se faire entendre, parce que vous parlez d'une polarisation du débat, vous parlez de rythme, vous parlez de ton et vous parlez de façon de parler. Mais justement, la vraie question, c'est comment on se fait entendre quand partout autour de nous, politiquement mais aussi médiatiquement, ça cogne fort. C'est pas tellement dans l'ADN récent de l'Obs, de cogner fort. Comment on se fait entendre ?
Moi, je crois vraiment beaucoup à la valeur des articles, à la valeur des histoires, aux angles et à la manière dont ce travail s'impose petit à petit. Je pense qu'il y a une certaine humilité aussi à avoir pour faire du bon journalisme. C'est aussi surtout dans les bonnes questions qu'on se pose.
Vous voyez, par exemple, quand on prend Marianne et quand on prend Le Point, ils sont mieux identifiés que vous politiquement. Aujourd'hui, on sait mieux où ils sont. Mais ils ont un côté aussi un peu tapageur, un peu voyou. Ils savent y aller, ils savent s'emparer de l'actu, ils savent faire les gros titres, ils savent faire du bruit. On a l'impression que l'Obs est bourré de choses intéressantes à lire, qu'on ne le sait pas, que c'est pas assez vendu et que vous ne savez pas les mettre en avant.
Et
comme
écoutez,
il faut.
On va s'y employer largement. Ça va être tout notre travail dans les mois à venir et les années à venir. C'est de s'affirmer comme on doit s'affirmer. Je pense que un des viatiques des médias qui sont à droite, c'est aussi le fait qu'ils sont plus en adhésion ou en cohésion avec une grande partie de la population. On peut le déplorer, mais il y a une autre partie de la population qui n'est pas sur cette tonalité-là. Et donc, ça laisse un champ large pour affirmer nos valeurs, pour faire du bon journalisme, pour faire des coups. Donc il ne s'agit pas de se cacher derrière notre petit doigt. On a l'intention de quand je dis porter haut les valeurs et l'identité, c'est vraiment ça. C'est s'affirmer comme tel. On est un média de gauche progressiste et il y a largement de quoi faire.
Triple ambition, dites-vous, enquêter, révéler, faire vivre tous les débats. Enquêter et révéler, ça m'intéresse parce que dans ce champ sémantique de l'enquête, en réalité, il y a beaucoup de choses qui coexistent et qui ne sont pas forcément les mêmes choses. C'est intéressant parce que vous avez piloté pour le journal Le Monde des grandes enquêtes. Mais là, quand on parle de grandes enquêtes, on parle d'investigation. Le Monde étant membre d'un consortium d'investigation international. Ça a permis de sortir, par exemple, les Panama Papers. Mais vous avez piloté aussi, Cécile Priers, un hors-série sur les féminicides qui a fait beaucoup, beaucoup parler au mois de juin. C'est pas tout à fait le même registre d'enquête.
Alors, c'est complètement la même démarche.
C'est-à-dire
que je ne vois pas de différence. Bien sûr, les sujets sont différents. Mais la démarche, elle est commune. C'est-à-dire chercher à révéler quelque chose de souterrain, caché, ou en tout cas pas encore compris dans la société. C'est, je pense, ce qu'on a réussi à faire lors de l'enquête avec les féminicides, c'est-à-dire au-delà des petits faits ou des gros faits que sont les meurtres les uns après les autres, en fait, il y a une logique, il y a une mécanique, et c'est notre travail qui a permis, je pense, d'en révéler une partie.
Ce que je veux dire, c'est qu'il peut y avoir enquête sans qu'il y ait scoop.
Mais complètement,
mais bien sûr. C'est difficile à comprendre parfois pour des non-journalistes.
C'est difficile à comprendre, mais pour moi, l'enquête, c'est d'abord une démarche, c'est un questionnement, en fait. C'est vraiment se mettre dans la peau aussi des lecteurs. Qu'est-ce que les gens se poseraient comme question s'ils avaient l'accès à une foultitude de petits faits qu'on a la chance en tant que journaliste de pouvoir enquêter, et comment en fait tous ces petits faits font sens en fait. Voilà. Et donc l'enquête, oui, ça peut pour moi être aussi, enfin, il n'y a pas de grande ou de petite enquête, c'est une démarche journalistique et sur tous les faits, sur tout ce qui se passe en fait, il y a du reportage, il y a de l'enquête, il y a matière en fait à se poser des questions tous les matins quand on écoute France Inter ou autre, on se pose des questions. Voilà, donc toutes les questions tout ce qui fait frotti frotta, tout ce qui nous interpelle et notamment évidemment,
alors moi je vous en pose une débat dernière.
À gauche sont source de journalisme
et voilà. D'enquête. Une dernière question sur Google. Le géant américain vient de signer plusieurs accords avec des journaux français, avec certains journaux français, dont Le Monde, dont Le Figaro, dont l'Obs, et pas d'autres, qui dénoncent chez Google une façon de vouloir contourner la loi, de ne pas vouloir rémunérer la presse pour ce qu'on appelle le droit voisin. C'est un genre de droit d'auteur. Pourquoi vous avez signé avec Google? Pourquoi pas d'autres?
Alors, moi, je préférerais que vous posiez la question aux personnes qui ont signé. Voilà, je pense qu'avec Google, il y a eu cette polémique sur les droits voisins.
Qui est une injonction européenne, et on voit bien les géants du numérique qui ont du mal à s'y soumettre.
Oui, tout à fait. Donc, je pense qu'il y a une contrepartie réelle au fait que Google a aspiré nos informations pendant toutes ces années. Donc, il y a eu un choix qui a été fait de participer à ce nouveau partenariat avec Google. Moi, je ne peux pas vous en dire plus à ce stade.
Pas vous qui avez signé le papier. Merci beaucoup, Cécile Brieur. Donc, on vous laisse déployer vos ambitions et vos projets sur l'Obs. Et puis, vous revenez dans quelques mois pour qu'on en fasse le bilan. Merci beaucoup d'avoir été l'invité de l'Instant M ce matin.